Il est 13h30 à Paris, midi et demi en temps universel. C'est l'heure d'Afrique Midi présentée par Arthur Ponchelet. Bonjour Arthur.
Bonjour Florent et bonjour à vous qui nous écoutez. Afrique Midi, on est ensemble pendant 30 minutes pour faire le tour de l'actualité du continent et on commence avec le journal. À la une, après un mois de garde à vue au Niger, Moussa Tchangari est en route pour la prison de Filingué. Le secrétaire général d'Alternative Espace Citoyen, figure de la société civile, a été présenté à un juge. Hier, il est notamment poursuivi pour atteinte à la défense nationale et intelligence avec des puissants ennemis. Au Burkina Faso, Ibrahim Traoré annonce la création de 3 nouveaux bataillons d'intervention rapide, des unités qui doivent permettre, selon lui, de reconquérir la totalité du territoire face aux groupes armés terroristes. En RDC, la localité de Katalé est tombée aux mains des rebelles du M23, une agglomération stratégique puisqu'elle est considérée comme le dernier verrou protégeant la ville de Massissi-Centre, chef-lieu de la région. Au sommaire également, on sera en Éthiopie où la terre a tremblé hier soir. Un volcan est par ailleurs entré en activité dans le nord du pays. Et puis du football, et la 4e journée des phases de groupe de la Ligue des Champions. Le stade d'Abidjan affronte aujourd'hui les Sud-Africains d'Orlando Pirates. C'est une figure de la société civile nigérienne, un défenseur des droits humains connu bien au-delà des frontières de son pays. Moussa Tchangari a quitté Niamey ce matin, direction la prison de Filingué au nord de la capitale. À Mélitulé, hier, après un mois de garde à vue, le secrétaire général d'Alternative Espace Citoyen a été présenté à un juge au tribunal de grande instance de Niamey.
Moussa Tchangari a été présenté devant le doyen des juges d'instruction, accompagné de ses avocats, des membres de sa famille et de plusieurs défenseurs des droits humains. En plus des 3 chefs d'accusation déjà connus, atteinte à la sûreté de l'État, association de malfaiteurs en lien avec le terrorisme et apologie du terrorisme, il a été inculpé également d'atteinte à la défense nationale et d'intelligence avec des puissances ennemies. Moussa Tchangari a donc été conduit à la prison de Filingué, à 180 km au nord-est de Niamey. Selon l'un de ses collaborateurs, son moral reste bon. Secrétaire général de l'ONG Alternative Espace Citoyen, Moussa Tchangari venait de rentrer de voyage le soir du 3 décembre dernier, quand il a été interpellé à son domicile de Niamey, son ordinateur, ses téléphones et sa valise confisqués. Il fait partie de ceux qui osent encore formuler des critiques à l'encontre des autorités militaires en place au Niger depuis le coup d'État du 26 juillet 2023. Des organisations comme Amnesty International, Human Rights Watch et la Fédération internationale pour les droits humains appellent à sa libération et dénoncent une répression généralisée au Niger contre toute opposition.
Amélie Tullet, ils doivent, selon le chef de l'État, permettre de reconquérir l'intégralité du territoire. Au Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré annonce la création de 3 nouveaux bataillons d'intervention rapide. Cela porte à 28 le nombre de ces unités mises en place par le chef de l'État burkinabé depuis sa prise de fonction. Les détails avec Esdras Nikoumana.
Le 26e et 27e bataillon d'intervention rapide seront respectivement stationnés à Ougarou et Diapaga dans la région de l'Est. Les habitants restés dans ces localités sous blocus sont soumis à des raquettes. Les terroristes ont encore imposé des taxes de 50 000 francs CFA par habitant. J'ai dû m'endetter pour expédier de l'argent à mes parents restés sur place il y a quelques jours, explique un ressortissant de la région, réfugié dans la capitale, qui espère que ces bataillons aideront à vraiment repousser les assauts des groupes armés. Quant au 28e bataillon d'intervention rapide, il sera positionné à Arbinda dans la région du Sahel, où selon des témoignages, le dernier convoi de ravitaillement est arrivé en novembre après 4 mois d'opinerie. Ces unités d'intervention rapide auront pour mission d'intervenir face à toute menace contre l'intégrité du territoire, d'assurer les escortes de grands convois logistiques et de participer à la lutte contre le grand banditisme aux côtés des forces de sécurité intérieure. Dans son message de nouvel an, le capitaine Ibrahim Traoré avait promis la création d'au moins 5 bataillons d'intervention rapide au cours de l'année 2025, avec comme objectif la densification des champs de bataille afin de reconquérir la totalité du territoire burkinabé.
À l'écoute de RFI, il est 13h34 à Kinshasa, la République démocratique du Congo, où les combats se poursuivent dans l'Est entre le M23 et les forces armées congolaises. Hier, les rebelles soutenus par le Rwanda ont pris le contrôle de Katalé, en territoire de Massissi. Cette localité, située à 70 km au sud de Goma, est considérée comme le dernier verrou avant la ville de Massissi-Centre, chef-lieu du territoire. RFI Goma, Héritier Baraka.
La prise de cette localité stratégique a eu lieu en début d'après-midi, selon des sources locales et sécuritaires, après des jours de violents affrontements tout autour, entre d'un côté l'armée et ses alliés Wazalendo et de l'autre côté les M23 soutenus par les Rwandais. Katale était jusque-là la principale place forte des FARDC, avant la ville de Masisi Centre, symbole administratif de la région. Une avancée des rebelles déplorée par Télésphore Mutondé qui est rapportée de la société civile du territoire de Masisi.
L'ennemi vient en tout cas de s'emparer de la cité de Katale, faisant ainsi plusieurs victimes parmi les civils, parce que plus d'une dizaine de civils blessés sont admis déjà à l'hôpital général de Masisi. On note les déplacements massifs des populations de plusieurs agglomérations.
Les responsables administratifs, Thierry Mohindo, précise que l'avancée des rebelles, accompagnée des détonations d'armes, qui ont provoqué une panique générale dans la région, a provoqué un déplacement massif de la population. Le colonel Séraphin Sabimana, porte-parole de Wazalendo dans la région, assure que tout est mis en œuvre pour une riposte. Et pour l'instant, l'armée n'a pas encore réagi. D'autres combats étaient signalés ce matin sur l'axe Minova-Bweremana à une quarantaine de kilomètres de Goma. L'avancée des combattants du M23 intervient après la chute de l'agglomération de Kaniro et d'autres villages dans les mêmes territoires de Masisi. Héritier Baraka, Goma, RFI.
La RDC, où les autorités annoncent vouloir doubler le salaire minimum interprofessionnel garanti, le SMIG, de 2,50 $. Il passera à 5 $ dès le 1er février. Une mesure saluée par les syndicalistes du secteur public, même si la loi de finances de 2025 n'a pas prévu cette revalorisation. Du côté du secteur privé, les autorités espèrent que l'application ne souffrira d'aucune contestation, car le patronat est co-signataire de cette revalorisation. Le nord de l'Éthiopie, frappé par un tremblement de terre de magnitude 5,5 sur l'échelle de Richter. C'était hier soir, aux alentours de 20h, heure locale, à une cinquantaine de kilomètres de la ville d'Asbé Teferi, vers la frontière entre les régions de l'Afar et de l'Oromia. Un volcan est également entré en activité. Alors pour l'instant, aucun blessé n'a été signalé, mais des habitants et du bétail ont dû fuir. Bonjour Lisa Fabian.
Bonjour.
En fait, depuis le mois de septembre, les autorités ont relevé une activité sismique accrue.
Oui, pas moins de 67 tremblements de terre et secousses ont été enregistrés dans cette zone ces derniers mois, plus particulièrement dans la région de Fantale, qui fait partie de la vallée principale du Rift éthiopien, une vaste zone de fracture de la croûte terrestre où les phénomènes géologiques sont particulièrement intenses. Depuis des mois, la population locale observe des secousses de plus en plus fortes, dont certaines ont même été ressenties jusqu'à la capitale éthiopienne, Addis Abeba, pourtant située à 230 km de là. Et l'inquiétude est montée d'un cran ce vendredi soir avec l'entrée en éruption du mont Dauphan. Sur les images tournées à proximité de ce volcan, on peut voir une colonne de gaz et de débris sous pression qui s'élève au-dessus des arbres. De profondes fractures ont également été observées sur le sol. Autant d'éléments qui laissent craindre une éruption plus importante.
La situation, Lisa, est en tout cas suffisamment sérieuse pour que les autorités commencent à organiser l'évacuation de la population.
Ça fait déjà plusieurs semaines que les autorités éthiopiennes travaillent à un plan d'évacuation de cette zone. Un responsable de la commission de gestion des risques et des catastrophes dans la région de l'Afar m'a expliqué que 5 refuges ont été ouverts pour accueillir les déplacés. Ils sont de plus en plus nombreux. Au téléphone, il a estimé que plus de 60 000 personnes pourraient être forcées de fuir la zone si l'activité volcanique s'intensifie encore.
Lisa Fabian, en direct dans Afrique Midi. En bref, le ministre chinois des Affaires étrangères entame aujourd'hui une tournée sur le continent. Wang Yi va se rendre dans 4 pays africains, la Namibie, le Congo-Bé, le Tchad et le Nigeria. C'est son premier voyage à l'étranger de l'année. Une visite qui, selon Pékin, doit renforcer les liens entre la Chine et l'Afrique. En Côte d'Ivoire, nouvelle alerte à la contrebande de cacao. Selon des exportateurs cités par l'agence Reuters, environ 50 000 tonnes de la précieuse fève auraient été transportées illégalement de la Côte d'Ivoire vers la Guinée entre octobre et décembre. Une cargaison estimée tout de même à 573 millions de dollars. Une situation qui inquiète la filière, à commencer par Koussi Jean-Michaël. Il est président de la Ligue ivoirienne des organisations professionnelles agricoles.
C'est un manque à gagner pour notre économie. Cette fuite-là crée un dérèglement du prix bas champ fixé par le chef de l'État. Alors que à Danané, à Sipilou, à Zouaouniaïman, on paie le cacao à 2000, 2500, voire 3000. À Issia, à San Pedro, Sassandra, à Oumé, à Bengourou, on paye à 1800. Vous voyez que ça peut créer des sources de tension. Il y a une complicité interne et externe qui alimente la fuite du cacao vers les pays voisins. Il faut démanteler. Nous demandons à l'État de Côte d'Ivoire de pouvoir relever le prix. Assurément, c'est ce qui favorise que les producteurs, estimant qu'en Guinée, le prix est très alléchant, donc ils ne rechignent pas à tomber sous le coup de toute proposition.
Propos recueillis par Abdoulaziz Diallo. C'était sa toute dernière adresse aux parlementaires. Au Ghana, le président Nana Akufo-Addo, qui va quitter ses fonctions lundi, a prononcé un ultime discours sur l'état de la nation. L'occasion pour lui de défendre son bilan, notamment économique. Il a vanté ses réussites, et ce, malgré la crise qu'a traversé le pays durant ses deux mandats, ce qui n'a pas manqué de provoquer la colère de l'opposition. RFI Accra, Victor Cariou.
Le pays n'est pas ruiné. Voici comment, un air de défi dans la voix, le président Nana Akufo-Addo a résumé son bilan économique face au Parlement. Une déclaration qui, dans un pays en défaut de paiement de sa dette depuis 2022 et où l'inflation dépasse encore les 20%, n'a pas manqué de faire réagir les députés de l'opposition. Pas de quoi cependant déstabiliser le chef d'État.
Le bruit ne frappe à terre les statistiques.
Autre point soulevé par le président, l'instauration de la gratuité de l'enseignement secondaire public lors de son premier mandat et son engagement pour la lutte contre l'orpaillage illégal, ce alors qu'en octobre, une série de manifestations dénonçait justement l'inaction de son gouvernement à ce sujet. Enfin, Nana Akufo-Addo s'est félicité de sa politique en matière d'infrastructures, notamment énergétiques.
Je suis très heureux de pouvoir dire que je quitte la présidence avec les lumières allumées.
Une référence à peine voilée à la crise énergétique survenue lors du mandat de son prédécesseur, John Dramani Mahama, qui sera une nouvelle fois investi président de la République du Ghana ce mardi 7 janvier. Victor Cariou, Accra, RFI.
On la surnomme l'affaire des fils de. Au Maroc, quatre jeunes hommes, pour certains issus des familles les plus fortunées du royaume, sont au cœur d'accusations de viol depuis le mois de novembre. Le principal accusé, poursuivi pour violation du secret de l'enquête et de l'instruction, vient d'être incarcéré à la prison d'Oukacha, Casablanca. Et l'affaire, Mathias Reynal, vient de connaître un nouveau rebondissement.
Il est passé d'accusateur à accusé, lui qui avait déposé plainte au début de l'affaire pour coups et blessures, affirmant avoir été violenté, empêché de rejoindre sa compagne, elle, l'élève avocate de 27 ans, emmenée dans une autre partie de la villa luxueuse où se déroulait une soirée mondaine, affirme avoir été violée par l'un des accusés. Son compagnon a depuis retiré sa plainte pour coups et blessures. Il est même dans le viseur de la justice. La faute à une note vocale dans laquelle il aurait divulgué le contenu de ses échanges avec le juge d'instruction. Dans cet audio qui a fuité, il aurait aussi proféré des insultes à l'encontre de l'une des avocates de la défense. La défense qui continue de réclamer la liberté provisoire pour ses clients et a fait appel après le rejet de sa requête par le juge d'instruction. Elle a fourni à la justice une liste de témoins. 12 ont été interrogés et tous ont déclaré qu'il n'y avait pas eu de viol lors de la soirée du 2 novembre. Cette semaine, la victime présumée a fini par sortir du silence dans une longue interview accordée à un site d'information marocain. Elle y rétablit sa vérité et affirme sa détermination à aller jusqu'au bout. Mathias Reynal, Casablanca. RFI.
Un mot de football avant de refermer ce journal. Avec aujourd'hui la quatrième journée des phases de groupe de la Ligue des Champions. Dans le groupe C, les Sud-Africains d'Orlando Pirates reçoivent le Stade d'Abidjan en fâcheuse posture avec un seul point pris en trois matchs. Les Yéyés ivoiriens doivent impérativement gagner pour continuer à croire au quart de finale et renouer avec leur glorieux passé. À Johannesburg, Claire Bargelès.
Le Stade d'Abidjan compte déjà une étoile sur son maillot puisqu'il était devenu le premier vainqueur ivoirien de la compétition continentale en 1966. Mais depuis les années 2000, le club a arrêté de briller. Arrivé en phase de groupe de la Ligue des Champions, une première en 54 ans et donc déjà une belle victoire. Cependant, le gardien Bamba Drissa ne veut pas s'arrêter là.
Déjà, nous sommes gonflés à bloc. C'est une histoire que nous voulons écrire. Tout un chacun, nous sommes prêts. On ne va pas faire des kilomètres de venir faire de la figuration. Nous sommes là pour tout donner, pour avoir un résultat positif et pouvoir rentrer chez nous et pouvoir continuer la compétition et aller encore plus loin.
L'équipe s'est choisie l'un des plus jeunes entraîneurs au monde. Alexandre Lafitte, 27 ans, guide les Yéyés depuis près de 2 ans. Il a déjà réussi le tour de force de faire terminer le Stade d'Abidjan à la 2e place du championnat local l'année dernière et espère encore réaliser des exploits.
Il faut qu'on joue, il faut qu'on soit capable d'accepter de prendre des risques, d'aller les chercher haut. C'est vrai que le stade sera plein, mais après je pense qu'aussi sur les coups de pied arrêtés, comme on a fait le match matchs précédents où on a marqué, il faudra insister. Donc c'est aussi un axe qui peut être intéressant.
Mais c'est depuis les tribunes qu'il devra suivre la rencontre, n'ayant pas encore obtenu l'équivalence de son diplôme européen pour la Ligue des champions africaine. Claire Bargelès, Johannesburg, RFI.
Orlando Pirates, stade d'Abidjan, coup d'envoi à 16h, temps universel. Il est midi 45 en temps universel.
Afrique Midi, Arthur Ponchelet.
Voilà pour le journal. Restez avec nous dans les prochaines minutes. On a rendez-vous, comme tous les samedis, avec Jean-Baptiste Placa. Cette semaine, on revient avec lui sur la dispense de visa d'entrée au Ghana pour les détenteurs d'un passeport africain. L'occasion de poser cette question, où en est le panafricanisme sur le continent? Et puis, un mot, une histoire, la chronique de Lucie Bouteloup, un amoureux de la langue française, parle d'un mot qui lui est cher. Et aujourd'hui, c'est une figure du rock des années 80 qui nous attend. Mais d'abord, on parcourt la une de Jeune Afrique avec François Soudan, son directeur de la rédaction. Il est au micro de Catherine Potet. Avec cette semaine, cette question, le Sahel est-il en train de devenir le nouveau terrain d'affrontement entre le Maroc et l'Algérie ?
Bonjour François Soudan.
Bonjour Catherine.
On peut parler d'une sorte de guerre froide entre les deux frères ennemis du Maghreb, guerre froide dont l'enjeu, nous dit Jeune Afrique, est de s'attirer les sympathies des pays de l'Alliance des États du Sahel. Alors où en est-on aujourd'hui ? Selon vous, François Soudan, l'Algérie est à la peine ?
Oui, parce qu'après avoir exercé pendant 40 ans un rôle géopolitique majeur dans la région, l'Algérie accuse un net déficit d'image, d'influence, depuis que des juntes militaires ont pris le pouvoir au Mali, au Niger, au Burkina. La diplomatie algérienne était beaucoup plus à l'aise avec les régimes civils de ces trois pays qu'avec ses officiers qu'elle ne connaissait pas, et dont elle a d'ailleurs condamné les coups d'État, en particulier au Niger. Dans cette région qu'elle considère comme relevant de sa profondeur stratégique, l'approche de l'Algérie a toujours été à la fois sécuritaire, axée sur la protection des quelques 2300 km de frontières partagées avec le Mali et le Niger, approche auto-centrée et hostile à toute ingérence extérieure, qu'elle soit française hier ou russe aujourd'hui, c'est une question de doctrine, quels que soient par ailleurs les bons rapports entre Moscou et Alger. Alors c'est avec le Mali, qui fut autrefois une plateforme de l'influence algérienne, que les relations sont les plus compliquées, elles sont même très conflictuelles. Le palais d'El Mouradia ne s'est toujours pas remis de la dénonciation par Bamako il y a un an des accords d'Alger qui lui a fait perdre son statut de médiateur régional. Et il y a une différence d'approche fondamentale, Catherine, entre les deux capitales concernant les groupes armés Touareg. Pour le gouvernement malien, ce sont des terroristes. Pour celui d'Alger, qui héberge d'ailleurs quelques-uns de leurs chefs, ainsi que l'imam Diko, grand opposant à la junte au pouvoir, ce sont des interlocuteurs essentiels à tout processus de paix, Catherine.
L'Algérie a la peine. Donc, en revanche, le Maroc a marqué des points sur le plan diplomatique, mais aussi sur le plan économique, avec son projet de gazoduc atlantique.
Oui, le Maroc est dans une dynamique sahélienne qui est l'inverse de celle de l'Algérie pour plusieurs raisons. D'abord, le royaume n'a jamais condamné les coups d'État militaires. Il a toujours fait preuve d'une certaine compréhension vis-à-vis de la posture souverainiste des juntes qui rejoint quelque part le Morocco First, prôné par le roi Mohamed VI. Ensuite, c'est de longue date un investisseur économique, bancaire, si je puis dire spirituel avec la formation des imams dans la région, mais aussi militaire. Les chefs des juntes militaires burkinabé, Abdourahmane Tiani, Ibrahim Traoré ont effectué une partie de leur formation dans les académies du royaume. Il y avait donc une sorte de terreau fertile qui a permis au Maroc de profiter du vide laissé par l'effacement de l'Algérie en se positionnant, Catherine, sur trois offres, trois créneaux complémentaires. D'abord, proposer aux pays enclavés de l'AES, via l'initiative atlantique, un débouché de substitution par rapport à celui qu'offrait les ports de la CEDEAO. Servir d'intermédiaire entre l'AES et les investisseurs financiers des pays du Golfe. Et enfin, jouer les médiateurs entre ces mêmes pays de l'AES et les pays européens, en particulier la France, comme le démontre le rôle crucial joué par le roi lui-même dans la libération le 19 décembre de quatre agents des services français détenus à Ouagadougou, Catherine.
Dernière question, François Soudan. Dans un peu plus de deux semaines, c'est l'administration Trump qui sera aux affaires à Washington. Et là encore, le Maroc et l'Algérie ne sont pas sur un pied d'égalité. Ils ont des raisons différentes de s'en inquiéter ou de s'en réjouir.
Oui, tout à fait. En quelques mots, Catherine, disons qu'on a quelques raisons de s'en réjouir côté marocain, puisuisque c'est sous la précédente administration Trump que les États-Unis ont reconnu la marocanité du Sahara, et quelques raisons de s'en inquiéter à Alger, surtout si Marco Rubio est confirmé au poste de secrétaire d'État. Le sénateur de Floride s'est dans un passé récent distingué par des positions très critiques à l'encontre du régime algérien. Il avait notamment, Catherine, demandé qu'il soit sanctionné pour ses achats massifs d'armes russes.
Merci François Soudan. Cet article sur le Maroc et l'Algérie est à retrouver sur jeuneafrique.com.
Et cet entretien signé Catherine Potet est à retrouver sur RFI.fr. samedi 4 janvier. On fait le point sur les principaux titres de l'actualité internationale, avec d'abord de nouvelles manifestations à Séoul. Des milliers de Sud-Coréens réclament l'arrestation de l'ex-président Yoon Suk-yeol. Hier, des policiers ont tenté d'arrêter celui qui a été déchu après sa tentative d'imposer la loi martiale, mais sans succès. La guerre en Ukraine et l'armée russe qui dit avoir intercepté 8 missiles américains à Takemes tirés par Kiev. On ne sait pas s'ils ont fait des victimes. Dans un communiqué publié il y a quelques minutes, l'armée russe promet des représailles. En Syrie, les nouvelles autorités annoncent la reprise des vols internationaux à l'aéroport de Damas mardi. Une première depuis la prise de pouvoir il y a bientôt un mois. Par ailleurs, on apprend aujourd'hui qu'un avion cargo égyptien a atterri à Damas. À bord, près de 15 tonnes de médicaments et de vivres. La première cargaison humanitaire égyptienne depuis la chute de Bachar al-Assad. Comme tous les samedis, on retrouve Jean-Baptiste Placa qui revient pour nous sur un événement de la semaine qui l'a marqué. Aujourd'hui, Jean-Baptiste, on évoque avec vous la dispense de visa d'entrée au Ghana pour les détenteurs d'un passeport africain. La mesure est entrée en vigueur en ce début d'année. C'était l'un des vœux les plus chers des panafricanistes. N'est-ce pas là une preuve que l'Afrique évolue dans le bon sens ?
Il faut évidemment s'en réjouir, mais comment ne pas déplorer en même temps que seuls 5 des 55 États du continent concèdent une telle évidence aux Africains. Plus de 60 ans après la création de l'organisation panafricaine, ces chiffres sont une affligeante indication du peu de foi qu'inspire aux États l'idéal panafricaniste, surgi durant le dernier tiers du 19e siècle, des âmes meurtries des Noirs d'origine africaine installés dans les Antilles anglaises et aux États-Unis d'Amérique. Respect pour le Rwanda, les Seychelles, la Gambie, le Bénin et donc enfin le Ghana, patrie du docteur Kwame Nkrumah, le plus fervent chantre du panafricanisme en terre africaine. L'on ne cessera cependant de s'étonner que les autres ne comprennent pas que le droit pour chaque Africain de circuler librement dans toute l'Afrique relève du bon sens élémentaire. Surtout sur un continent où autrefois même les bergers et leurs troupeaux suivaient leurs itinéraires au gré des verts pâturages sans aucune contrariété de frontières. Il ne sert à rien de se gargariser d'envolées panafricanistes si c'est pour ensuite tenir à distance ses voisins les plus immédiats, voire leur fermer sa porte. Les peuples qui se barricadent dans le rejet des autres n'ont jamais été nulle part les plus heureux de la terre. C'est justement l'esprit d'ouverture de son premier président qui a par exemple valu à un pays comme la Côte d'Ivoire de connaître la prospérité qui lui vaut encore aujourd'hui une place centrale en Afrique de l'Ouest.
Vous faites ici référence à Félix Houphouët-Boigny qui ne passait pourtant pas pour le plus panafricaniste des dirigeants africains.
Le panafricanisme véritable s'apprécie par les actes et non par les seuls discours. Félix Houphouët-Boigny, à qui l'intelligentsia de gauche reprochait en effet de préférer son pays à l'Afrique, était un des rares, sinon le seul dirigeant africain à accorder jusqu'à sa mort le droit de vote à tous les ressortissants de l'Afrique de l'Ouest résidant en Côte d'Ivoire depuis plus de 5 ans. Et Abidjan était une ville où l'on pouvait dénombrer des citoyens de toutes les nations africaines, surtout avec le siège de la Banque africaine de développement. L'esprit d'ouverture de ce leader a permis à son pays d'avancer et de distancer d'une manière irréversible la Guinée voisine, parvenue à l'indépendance avec infiniment plus de richesses naturelles. Et lorsque le Mali, après 2 décennies d'une aventure monétaire solitaire, a choisi de réintégrer l'imparfaite zone franc, Houphouët-Boigny a été le premier à proposer aux autres États de ne pas humilier ce pays frère en exigeant de lui le ticket d'entrée dont il n'avait pas les moyens. Le vieux avait alors obtenu de ses pairs qu'il réintègre le Mali à charge de prélever sur sa part de bénéfices ce qui aurait dû être son apport au capital. Un peu comme si l'on vous faisait actionnaire d'une entreprise florissante sans bourse déliée pour, avec vos dividendes, apurer ce que vous auriez dû avoir versé dans le tour de table. Parmi les panafricanistes, il faut donc savoir distinguer ceux du verbe de ceux des actes concrets.
Quels seraient justement, Jean-Baptiste, les panafricanistes du verbe ?
Ils sont nombreux, États ou citoyens, et vous ne pouvez imaginer la colère de tant d'Africains qui se sont battus pour la fin de l'apartheid en Afrique du Sud, en découvrant ensuite que les dirigeants noirs sud-africains gênés se taisaient pendant que leurs concitoyens se déchaînaient contre les Zimbabwéens, les Zambiens et autres Mozambicains venus chercher un mieux-être chez eux. Du temps où ils étaient persécutés, eux trouvaient un accueil généreux en Zambie, au Mozambique et dans les pays dits de la ligne de front. L'Afrique qui se conduit ainsi n'est pas crédible. Aucun Africain ne devrait tolérer de telles attitudes.
C'était la semaine de Jean-Baptiste Placa, à retrouver sur l'application RFI Pure Radio. Et avant le journal de Karine Bellicha, on retrouve Lucie Bouteloup pour Un mot, une histoire. Des amoureux de la langue française parlent d'un mot qui leur est cher.
C'est un mot courant, c'est pas du tout un mot compliqué. Et en même temps, ça fait partie des mots qui sont des mots pensants ou des mots qui donnent à penser. Il suffit de s'attarder un peu dessus ou de les combiner d'une certaine manière pour que tout d'un coup, on découvre leur potentiel, ils se mettent à parler.
Des mots qui donnent à penser, il y en a plein les textes de son dernier album, Avalanche. Un album dans lequel le guitariste et chanteur Rodolphe Burger, figure incontournable du rock alternatif depuis les années 80, a signé la plupart des textes de ses chansons. Une poésie portée à la fois par une voix grave, presque hypnotique, et ce phrasé si singulier. Décidément, l'homme aime surprendre. Tout comme d'ailleurs, il aime être surpris. La preuve avec le mot qu'il a choisi pour cet épisode.
Un mot, une histoire, Lucie Bouteloup.
Bonjour.
Bonjour.
Alors moi j'ai envie de vous parler du mot inattendu. Pourquoi ce mot? Alors c'est l'idée qu'il recouvre, quoi, qui a donné lieu à l'écriture d'une chanson avec mon ami Pierre Alféri, mon ami écrivain avec qui j'ai fait énormément de chansons. Et ça c'est la dernière qu'on ait faite vraiment ensemble. Et elle ouvre mon nouvel album, Avalanche, mais le refrain, si on peut dire, c'est « On peut très bien attendre, tout court, on peut très bien attendre l'inattendu ». Et c'est ça que j'ai envie de laisser résonner, quoi, cette idée que l'inattendu, c'est-à-dire par définition ce qu'on ne peut pas attendre, si on l'attend, il est plus inattendu. Donc c'est ce paradoxe, quoi, que l'inattendu, pour qu'il surgisse, pour qu'il vienne, pour qu'on puisse l'accueillir, il faut ne pas l'attendre, ou alors il faut être dans cette position d'attendre tout court, d'attendre rien.
De vous à moi, qu'attendez-vous au juste ?
Mais alors, cette surprise, cet inattendu, quand il surgit, des fois c'est pour le meilleur, et puis ça peut être aussi pour le pire.
Oui, c'est vrai. Néanmoins, le fait que ça puisse être pour le pire, c'est aussi ce qui permet que ça puisse être pour le meilleur. C'est voilà ce qu'on pourrait appeler par autrement l'événement, l'accident aussi, avec le double sens de ce terme. Ce que les Grecs appelaient ça le kéros, quoi. C'est la chance qu'il faut savoir saisir.
L'inattendu.
Ce mot, alors, d'une certaine manière, il définit presque tout ce disque, parce que c'était totalement inattendu la manière dont tout ce disque s'est fait, et c'est toujours une dimension un peu inattendue dans ce que je fais, et c'est ce que je recherche, je pourrais dire, même dans la musique, au fond. J'aime bien aussi le mot anglais, unexpected. Ça pourrait permettre même de fabriquer aussi un verbe qui n'existe pas, qui serait inattendre, quoi. C'est une attitude qui serait, au lieu d'attendre quelque chose, attendre tout court. Ça veut dire quoi, attendre l'inattendu? Voilà. C'est un peu, c'est en forme d'énigme aussi, là.
Non, ce verbe, il n'existe pas, il devrait exister.
Ouais. Oui, oui.
Selon le dictionnaire Le Robert, le mot inattendu est un adjectif qui définit ce à quoi on ne s'attendait pas. C'est un synonyme d'imprévu, d'inopiné.
C'était un mot, une histoire.
Rodolphe Burger, que vous pouvez retrouver en tournée dans toute la France, avec notamment un concert à la Maroquinerie de Paris le 20 janvier. Et c'est ainsi que s'achève cette édition d'Afrique Midi, préparée et réalisée aujourd'hui avec Benoît Raymond, Pierre Vallée et Frédéric Gara. Merci à eux. Merci à vous de nous avoir écoutés. L'actualité africaine revient à 18h30. Temps universel, ce sera Afrique Soir avec Sylvie Berruet. D'ici là, vous restez avec nous. L'information continue. Dans une minute, un nouveau journal sur RFI.
Tout à l'heure sur RFI,
Écho d'ici, écho d'ailleurs, Bruno Faure.
Pour cette première émission de 2025, nous parlons de notre planète et de sa biodiversité au cœur de nombreux enjeux économiques. Protéger les espèces, c'est aussi développer de l'activité et préserver celle des populations concernées. Nous serons en RDC et en Bolivie, au cœur de l'Amazonie.
Écho d'ici, écho d'ailleurs,
avec la Banque Ouest-Africaine de Développement.
Tout à l'heure à 23h10 TU sur RFI.
Religion du monde, Véronique Guémard.
Qu'est-ce que la mode peut avoir en commun avec la religion ? La mode comme phénomène globalisant qui concerne l'individu et la collectivité avec ses dogmes et ses rites. Nous en parlons avec le théologien dominicain Alberto Fabio Ambrosio, auteur de « Mode et religion, habiller le sacré, sacraliser le look ».
Religion du monde, avec Véronique Guémard.
Dimanche, à partir de 10h10 TU.
RFI.